Vous écoutez France Musique. Miniature. Bonjour et bienvenue, nous retrouvons Patrick Burgan qui nous accompagne depuis le début de la semaine dans cette série de miniatures et nous continuons d'entrer dans son domaine privé. Patrick Burgan, bonjour.
Bonjour.
On va revenir sur votre métier de compositeur. Vous semblez donc très intéressé par la poésie, par la littérature, Rimbaud, Verlaine, Garcia Lorca, en passant par Shakespeare. Nombre de vos œuvres vocales empruntent des textes à ces poètes. Alors, quel est le fil qui relierait par exemple Verlaine à Garcia Lorca? Le sens de ma question, c'est est-ce que c'est la poétique qui vous intéresse? Est-ce que c'est le côté sonore des mots? Est-ce que c'est la forme du poème?
Oui, tout ça est indissociable en fait. Le côté sonore est indissociable de la poétique parce qu'il fait partie de la poésie. Peut-être votre question, c'est parce que souvent, certains compositeurs utilisent le texte seulement pour sa vertu phonétique, par exemple.
Oui, c'est ça.
Non, jamais, évidemment. Je trouve que la vertu phonétique du texte est tellement indissolublement liée à son sens et à la puissance poétique de ce qu'il exprime que... Peut-être pour donner une idée rapide de la raison pour laquelle je choisis tel ou tel texte, je parlerai plutôt d'image en fait.
Oui, c'est le climat, l'image.
C'est plutôt l'image. C'est des textes porteurs d'image et de dramaturgie justement, parce que je suis parfois fasciné par certains poèmes, mais j'avoue que pour moi, ils n'ont pas besoin d'être mis en musique, ou en tout cas, ils ne sont pas porteurs d'une image qui fasse que par la musique, on va chercher quelque chose qui... Que les mots peut-être, ça a l'air un peu prétentieux que je dise ça évidemment, mais que les mots n'ont pas réussi à dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va chercher leur essence, ce qui est derrière vraiment, à l'initiative de le... Parce que quel que soit l'artiste, que l'idée de toute façon c'est toujours une idée abstraite, une énergie, quelque chose de dynamique. Donc ensuite que ça devienne des mots, que ça devienne de la musique, de la peinture, de la couleur, ça dépend en fait du métier de l'artiste et de son domaine de prédilection. Mais au départ l'énergie c'est la même. Donc l'énergie qui préside à l'écriture d'un poème, ça pourrait être la même que celle qui préside à l'écriture d'une œuvre musicale, même pure, sans texte si vous voulez. Donc à mon avis...
D'où un certain
respect que j'ai, mais qui n'est pas d'un respect pour... accompagner le texte ou être asservi à lui, non. C'est plutôt pour essayer de retrouver l'énergie qui a été inhérente à l'écriture de ce texte, voyez, et qui, elle, est sans texte. Elle est indicible, si vous voulez, voilà. J'essaye par la musique, si vous voulez, de retrouver cet état préalable. Mais ça ne veut pas dire que le texte ne soit pas à la hauteur, bien sûr, hein.
Mais on est
dans un niveau d'énergie.
Et quand je vous écoute, et je ne peux pas m'empêcher de penser à Mallarmé, quand Debussy s'est attaqué à ces fameux poèmes de Mallarmé, que d'ailleurs Ravel a mis en musique,
oui.
Il a toujours dit que la musique devait être en dessous du poème. Et je me suis demandé pourquoi avoir choisi un poète tel que Mallarmé. Enfin, j'essaie de me mettre à la place de Debussy.
Oui.
Peut-être que vous pouvez, en tant que compositeur. Il prend un poème qui est tellement extraordinaire, qui est tellement porteur d'effets sonores.
Oui.
Quelle musique écrire là-dessous?
Exactement.
Il a rien mis d'ailleurs, il a fait une espèce de voile. Parce que vous en pensez?
Oui, moi j'ai écrit des musiques sur des poèmes de Mallarmé. Je suis en train d'ailleurs de travailler en ce moment à 3 poèmes de Baudelaire. J'écris une œuvre pour le festival Olivier Messiaen où j'utilise 3 poèmes de Baudelaire, des poèmes absolument fascinants. Mais j'avoue que c'est une poésie tellement extraordinaire, tellement porteuse d'images et de sensations et de vertiges, si vous voulez.
Que rajouter?
Que rajouter? Simplement, tout à fait modestement et simplement, c'est ma lecture. Moi, je lis le poème. Donc, fatalement, en le lisant, je l'entends, si vous voulez. Et je donne tout simplement ma lecture du poème. Je ne vois pas ça de façon beaucoup plus compliquée. Ce qui fait qu'il y a certains poèmes que j'apprécie, mais pour lesquels je n'ai pas de lecture particulière. Et dès que je vois un poème ou que je lis un poème pour lequel je peux avoir une lecture particulière et qui peut être intéressante, si vous voulez, à transcrire en musique, à ce moment-là, je donne tout simplement ma version musicale du poème.
Alors on va entendre un extrait que vous avez choisi, donc Patrick Burgan, c'est Le Chevalier à la Rose, donc de Richard Strauss, et on est au moment où le jeune chevalier va remettre la rose à Sophie.
Thank you.
Quand on écoute cette magnifique vocalité de Richard Strauss, on est très impressionné par cette façon dont il met en musique le texte de l'opéra. Alors, je crois qu'on appelait ça la conversation en musique, non ? Je me trompe. C'est oui, une façon. On ne peut pas dire que c'est du parler-chanter, mais on se parle et on chante.
Oui, bien sûr. Enfin, là, c'est le grand air de Sophie, donc la ligne se développe. On est dans plein lyrisme. Mais souvent, bien sûr, il y a chez Strauss des sortes de récitatifs permanents, qui, surtout dans son opéra Capriccio, où il va vraiment développer ce qu'il a lu appellera, je crois, la conversation en musique. Oui, oui, tout à fait. Mais dans Le Chevalier à la Rose, on est encore dans un immense lyrisme post-wagnérien, il faut le dire, mais avec toute la personnalité et la maîtrise vocale et orchestrale de Strauss qui sont assez fascinantes.
Alors, la question de la voix, la question de mettre en musique ses poèmes, c'est quelque chose qui vous interpelle beaucoup, vous, Patrick Burgan, parce que comment, effectivement, construire une ligne de chant, comment faire comprendre peut-être le texte ? C'est peut-être ça votre objectif aussi, comprendre à l'opéra comme...
Oui, c'est vrai que ça ne sont pas les mêmes exigences suivant que c'est l'opéra. L'opéra, à mon avis, il faut absolument comprendre le texte, enfin, au moins, ce qui permet de suivre l'histoire sans avoir 10 000 surtitres ou d'avoir appris par cœur le livret avant de venir. Non, c'est quand même... c'est du théâtre, hein. Par contre, quand on met en musique un poème... Je pense que la puissance de la musique, en fait, de l'évocation, comme je disais tout à l'heure, l'énergie qui renaît à travers la musique est presque suffisante à faire comprendre le poème. Donc la compréhension immédiate n'est pas nécessaire pour une œuvre de concert, si vous voulez. Ce n'est pas absolument nécessaire. De toute façon, c'est souvent difficile quand vous avez un chœur à 12 voix ou à 24 voix et que tout le monde chante ensemble. De toute façon, ça n'est pas possible de comprendre le texte, sauf dans certains moments clé, si vous voulez, si vraiment le compositeur désire mettre l'accent sur certains mots, à ce moment-là c'est facile, homorythmie ou une seule voix, on peut. C'est ça que j'aime aussi dans la musique vocale, c'est le passage entre la compréhension ou la non-compréhension du texte, si vous voulez, la dissolution ou la non-dissolution, parce qu'une écriture polyphonique, de toute façon, le texte est dissous, c'est obligé, hein.
Oui, le texte est dissous, mais même si vous on ne prend pas le cas de l'écriture polyphonique, si vous prenez même un soprano, un soliste, si vous voulez comprendre le texte, vous êtes pratiquement obligé d'écrire comme Claude Debussy dans Péléas et Mélisande. C'est-à-dire, il disait, Péléas ne se chante pas.
Oui,
on
oui,
chante
bien
pas
sûr.
Chez Debussy.
Oui, oui.
Dès qu'on est dans l'aigu, on n'entend plus rien. Dans le surgrave, on n'entend plus rien.
Tout à fait. Ah, bien sûr, si on veut absolument comprendre le texte, il faut rester dans un ambitus raisonnable.
Et parce on réduit façon, complètement les moyens vocaux.
Tout à fait. Mais par contre, quand il y a des lignes comme cela chez Strauss, il y a des vocalises. Disons que la musique, là, dit autre chose en général, parce que quand il se passe des choses comme ça, il y a une vocalise, le mot est très simple, pas besoin de suivre une grande idée, et en fait, la musique dit tout, en fait, hein. C'est sûr. Là, c'est la notion de pureté. D'ailleurs, je suis tellement fasciné par cette ligne de Sophie, hein, qui est en fa dièse majeure, là, que je l'ai reprise dans une œuvre, Audit Chelum, qui est une grande prière à Marie, dont on a entendu d'ailleurs il y a quelques jours un extrait, que c'était un passage un peu surnaturel, justement, avec des étoiles qui scintillent partout. Là, dans le début de l'œuvre, où vraiment c'est un appel à Marie, après que le ténor est appelé Maria, Maria, que les sopranos soient venus vers lui, Maria, le cœur s'ouvre en éventail, et finalement la soprano coloratour part sur des sphères très très hautes, et c'est l'image de la pureté. Sophie dans Le Chevalier à la Rose, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la Vierge, et donc il m'a semblé presque évident, arrivé à ce passage-là, de citer Strauss, bon, d'abord par délicatesse, pour lui faire un petit bonjour, et puis parce que je pense que c'est vraiment une belle image de la pureté pour moi.
Et on entend cette citation musicale.
Ah oui, là, dans Audit Chelum, elle est très, très, elle est textuelle. Elle est textuelle, elle n'est pas sur la même basse, si vous voulez, ouais. Parce que là, c'est tout à fait modal. Mmh. Ce début d'Audit Chelum, d'ailleurs, il est assez proche, en fait, de ce qu'on disait de nativité. C'est-à-dire que tout ce début est extrêmement diatonique. Encore une fois, sonne tonal, entre guillemets, très, très diatonique, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de diaphane, de transparent. Et elle, sur une modalité de ré dièse, en fait, on pourrait dire ré dièse mineur, ouais. Pour aller vite, elle chante cette phrase, voilà, qui est complètement suspendue, surréelle. Et avec l'orgue et le chœur.
Eh bien, on va écouter tout de suite cet extrait.
Thank you.
Patrick Burgan, finalement, l'idée de la pureté, l'idée de l'élévation, c'est toujours les mêmes moyens qu'on prend, une espèce de voix d'enfant qui plane comme ça. C'est peut-être pas un enfant là qui chante, je sais, c'est une voix de soprano, c'est pas un enfant, mais il y a un peu cette innocence dans le timbre qui fait penser à une très très jeune voix.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, en tout cas, ça paraît être évident, mais...
Oui. Bon. Mais finalement, c'est les meilleurs moyens.
Ben, oui, je pense, oui, parce que...
Et je fais une association d'idées en pensant à cela. C'est à Jean-Sébastien Bach, qui terminait toujours, et très souvent, ses pièces qui sont en mineur avec la tierce majeure au milieu. Oui. Et il paraît que c'était aussi une signification symbolique de prière vers la Vierge. Alors, on le faisait là par l'intervalle qu'on agrandissait.
Oui, oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, ça, on pourrait évidemment vouloir signifier l'idée de pureté par une grosse masse dans le grave, mais pourquoi pas. Mais disons que je pense que la contradiction par principe, si vous voulez, pour le désir de faire quelque chose d'inhabituel, n'a pas tellement de validité, si vous voulez.
Eh bien, on se quitte aujourd'hui sur cet hymne à la Vierge, Audit Chelloum, et on se retrouve demain, Patrick Burgan, pour un dernier volet de cette série de miniatures. Maintenant, vous retrouvez le Matin des musiciens.